J'en ai rêvé.
Et oui, cela commence. Spectaculaire, enfin. Mercredi 17 avril 2024, 14h05, on a un petit peu de retard. Émission 329, Christophe Rollin au micro. Francis n'est pas présent, donc il n'y aura pas de chronique en fin d'émission, mais nous avons un invité. Et quel invité ? Nous recevons Paulin Bungen. Marie aussi est présente, mais bon, peut-être qu'elle ne parlera pas. Paulin parlera pour deux, pour trois, vous verrez, ça va être formidable. Le contre-ténor vient nous parler de lui, de sa belle tessiture, vraiment, vraiment très belle, très émouvante, très particulière. Il vient nous parler également de son ensemble, l'ensemble Céladon, qui fête, tenez-vous bien, auditeur auditrice, c'est 25 ans. Alors, première partie, un peu de célébration passée, le spectacle, le beau spectacle, Antonia, très astucieux, j'ai trouvé, très, très malin, c'était au Théâtre des Marronniers, c'est terminé, hélas, mais il reste encore beaucoup d'événements, et c'est bien ce qu'il faut pour fêter donc cette belle institution qui est née au XXe siècle, 1999. Michael Nyman, également ce grand compositeur anglais, a composé aussi pour Paulin Bungen et pour l'ensemble Céladon. Donc c'est un bel honneur que nous avons, et nous commençons avec de la musique, et d'ailleurs, encore un honneur, auditeur auditrice, vous aussi êtes très honoré. On va écouter un titre qui n'existe pas encore, il n'est pas encore disponible. C'est l'album qui sortira en juillet prochain dans le cadre de la célébration de ses 25 ans. Écoutons donc ce beau titre en mai, titre un peu plus long. Je laisserai Paulin l'indiquer et puis préciser tout ce qu'il faut. Et nous saurons tout. Donc voilà, la musique, comme d'habitude pour cette émission, est assurée, la playlist, la programmation musicale est assurée par notre invité, par nos invités de l'ensemble Céladon, Paulin Bungen. Commençons donc avec de la musique. Vous nous écoutez, vous faites très bien, hein, sur radiocanu.org, si c'est sur Internet, à Montbrison par exemple, ou dans le monde entier, à Sydney aussi, ainsi qu'à Bamako et à Grenoble. Et vous pouvez également nous écouter sur le 102.2 de la bande FM, si c'est à Lyon.
Je suis un
Et voilà, le morceau se termine de manière peut-être un peu abrupte, un peu sèche.
Mais non, pas du tout.
Bonjour enfin, Paulin.
Bonjour.
Bonjour Paulin Bunkel.
C'est un appel à la danse.
Très bien. Coucou Marie aussi. Paulin, vous êtes ici pour nous parler de vous-même, de votre bel ensemble.
Ma vie, mon œuvre.
Mais ça va être très très bien. Et puis peut-être un premier mot sur ce titre. En mai, c'est ça.
En mai, au doute en nouvelles. Donc c'est d'ailleurs le titre de notre prochain album qui s'appelle Au doute en nouvelles, qui est consacré à des chansons de trouvères. On a déjà fait les troubadours avec Nuits Occitanes, vous savez, l'album qui vous fait pleurer.
Ah mais il est épatant. Ah mais auditeurs, auditrices, écoutez ce titre chez vous. Il y a d'ailleurs deux versions. Il y a une version...
En fait, il a été réédité parce qu'il s'est très bien vendu. Donc du coup, on a fait une réédition de ce disque et voilà, il y a deux versions.
À doux prix, je crois, c'est ça?
Ouais, à prix léger.
Ah bah ça c'est... Non mais on dit ça en souriant.
Ça compte, hein, c'est bête. Mais
certes, et l'œuvre qui ouvre l'album est
vraiment... Oui, l'Overcomens de Marc Abru, oui, c'est très émouvant.
Je crois connaître des gens qui ont pleuré en l'entendant en concert.
Je crois qu'il y en a, ouais. Donc, et puis là, bah, voilà, on passe au côté trouvère. On a fait aussi les Minnesänger, qui sont les cousins allemands. Donc on a fait une trilogie autour de l'amour courtois. D'abord, donc, les troubadours, qui sont à la source de cet art de composer et d'écrire des poèmes pour une dame inaccessible, avec tous les codes de chevalerie que ça comporte. Après, donc, les Minnesänger, leurs cousins allemands, donc avec une langue en moyen haut allemand, tout à fait saisissante, avec ça évoque des paysages enneigés, des cavaliers qui s'en vont au loin, comme ça. Et puis, le doute en nouvelles, donc avec ces chansons de trouvères. Là, en l'occurrence, c'est une reverdie. Donc, c'est au moment où le printemps fait reverdir, justement. Donc, on célèbre cette période qui correspond au début de l'année à l'époque, puisque le premier de l'an, c'était le 1er avril. Et donc, du coup, c'est le moment où on appelle à la fête, à la danse, à la liesse générale, aussi bien dans les cours que sur les places des villages ou dans les champs.
Il y a un coup de froid là ces jours-ci à Lyon, zut ça. La semaine dernière,
ce serait très, très bien tombé. Justement, ce disque sera bientôt là pour nous réchauffer. Bon, il sort en juillet, donc on aura bien chaud d'ici là, mais il sort le 5 juillet, j'ai appris ça. Voilà, et nous allons faire d'ailleurs un concert au Festival de musique ancienne de Namur, en Belgique, avec ce programme. Dans ces jours-là, je ne me rappelle plus de la date, mais début juillet, le 3, on me dit à l'oreillette.
Tout cela, c'est dans cet album ainsi que ce programme de Namur, c'est dans le cadre des festivités, peut-être peut-on nommer la chose ainsi, dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire, les 25 ans de l'ensemble Céladon que vous fondez en 1999, Paulin Bunkel. C'est très intéressant, vous avez déjà commencé, Alain, vous avez déjà indiqué différents enregistrements que vous avez fait auparavant. Peut-être pourriez-vous commencer, alors... Cette fameuse question que je vous ai indiquée tout à l'heure, la hors antenne, cette question, je pense que la qualifier de Nietzschéenne, c'est très bien. Paulin Bunkel, qu'est-ce qui a fait? Comment êtes-vous devenu la personne que vous êtes? Alors, on va peut-être couper un petit peu depuis cette naissance montbrisonnaise. Oui. Quoique, oh oui. Bossaigne, fouillot.
Fouillot, bah, c'est important.
C'est
quand même.
Évoquer le forêt, ça me ferait bien plaisir. C'est... Oh là là. Fieux.
Bah, bon, donc, jusqu'à la découverte de ma voix, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Je suis un élève pas du tout modèle, mais pas du tout nul non plus.
Au Pénitent Blanc
ou est-ce Non, que... pas du tout. J'étais à Mario Meunier et puis à Borgard. Voilà. Et puis à 16 ans, j'entends... Alors, je connaissais déjà les contre-ténors parce que une de mes sœurs avait... des disques avec James Bowman et compagnie.
Il faut en dire un mot. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Qu'est-ce que c'est que James Bowman, Klaus Nomi, René Jacobs? Qu'est-ce que
c'est cette voix qu'on redécouvre dans les années 60 à peu près, avec d'ailleurs beaucoup, on doit beaucoup à Klaus Nomi qui a popularisé ce type de voix. Donc c'est cette tessiture aiguë qui est plus haute que la voix de ténor, qui correspond à la voix d'alto.
De femme
De femme ou d'enfant, chez Bach. Et donc, qui requiert des résonateurs un peu différents de la voix naturelle, on va dire. C'est une voix qui est tout sauf naturelle. Hein. D'ailleurs, si on l'appelle la voix de fausset, c'est parce qu'il y a le côté falsetto, le côté truqué, faux, pas naturel. Et d'ailleurs, souvent, malheureusement, malheureusement non, parce que c'est intéressant à interpréter, il y a beaucoup de rôles de traîtres qui ont cette voix-là dans les opéras baroques. Voilà, alors, c'est soit le héros, soit le traître. Et c'est une voix, effectivement, qui est revenue au goût du jour avec tout le renouveau de la musique baroque dans les années 60-70, avec Arnoncourt, Léonard, et puis après William Christie, qui ont redécouvert ce type de voix qu'on a aussi confondu avec la voix de haute contre, qui est plutôt le ténor léger qui va monter dans l'aigu et pour chanter de la musique française, par exemple Charpentier, Lully, Desmarais, alors que le contre-ténor, c'est vraiment la voix d'alto typique qu'on peut trouver chez Bach, cette tessiture-là, vraiment très médiane. Et voilà.
Elle s'était vraiment perdue, cette voix, ou c'est...
En France, oui. En France, oui. En Angleterre, non, jamais. En Angleterre, on a l'art de la tradition. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de révolution comme on peut faire en France ou en Italie, où on fait table rase du passé. En Angleterre, on compose sur ce qu'on a déjà, en fait. Donc, on réactualise des idées qui sont déjà anciennes. On va le voir tout à l'heure avec Nyman, justement, qui perpétue une tradition. Alors qu'en France, on fait des révolutions, quand même. On aime bien ça, on aime bien dire non. Par exemple, la viole de gambe, qui était un instrument extrêmement populaire au 18e, avec la Révolution, on a considéré que c'était un instrument aristocratique et que donc toutes les violes de gambe ont été brûlées. Les violes de gambe françaises ont été détruites à ce moment-là. Et du coup, cet instrument n'est jamais revenu en France. Alors qu'en Allemagne ou en Autriche, ça a continué la tradition. Et on sait même que Mozart a écrit une pièce pour viole de gambe qui est perdue, malheureusement. Donc Mozart, c'est quand même après la Révolution. Enfin, en fait, je ne sais pas exactement les dates.
Mais en 1791, Mozart.
Ah oui, non.
Mais alors Nolwenn Le Guerne, ouais. sur quel instrument elle joue bien de la viole de gambe, hein, dans Antonia, voilà, c'était bien. Oui.
Voilà, elle joue de la viole de gambe parce qu'on est revenu justement à cette pratique. On a cherché à avoir les instruments les plus historiques possibles, sachant qu'ils sont plus jouables aujourd'hui, ceux qui sont dans les musées. Donc on fait des copies. On fait des copies et c'est vraiment de l'archéolutherie avec les luthiers qui vont travailler sur le son, le bois, la qualité de bois qu'ils vont choisir, les cordes, quelles cordes on va choisir, quelle tension, et on se base beaucoup sur l'iconographie pour voir un peu effectivement comment les instruments étaient manipulés, par exemple. Mais on s'éloigne de la voix là.
Complètement. Mais c'est intéressant, nous sommes déjà en train de lancer un peu les membres de l'ensemble Céladon.
Exactement.
On pourrait nommer également, j'ai donc indiqué Nolwenn Le Guerne, il y a aussi Caroline
Wangswan.
Voilà, le nom de famille, c'est toujours un peu délicat.
Une Wangswan, tout simplement.
C'est très bien. Mais j'avais peut-être une autre question encore sur cette voix, on la qualifie également la voix de tête.
Oui, parce qu'en fait, ce sont les résonateurs qu'on utilise. En fait, les cordes vocales dans la gorge, elles sont horizontales. On croit souvent qu'elles sont verticales, elles sont horizontales, donc elles sont deux, et elles vibrent sous la pression de l'air, tout simplement. Et en fait, le contre-ténor, on va utiliser 10% seulement de cette vibration, enfin 10% des cordes vocales, en fait. Et c'est celles qui sont justement le plus proche de la... comment dire, des résonateurs de la tête, en fait, au lieu des résonateurs de poitrine, qui sont les résonateurs qu'on utilise pour parler, par exemple. Là, c'est vraiment la voix de poitrine que j'utilise. Par contre, si je me mets à parler comme ça, là, c'est on appelle ça la voix de tête, effectivement. Bon, ça, c'est très technique et un peu... pas très sexy, quoi, finalement, parce que c'est pas de l'amour.
Et alors, comment le découvrez-vous, donc, vous dites à...
Je le découvre à 16 ans. J'entends le Magnificat de Bach par Philippe Hervègue, une version qui est toujours indétrôné pour moi, indétrônable d'ailleurs. Et j'entends Gérard Laine, grand contre-ténor français, chanter. Et là, je me dis, ah, là, j'aime bien. Alors que j'étais pas très fan de Baumann ou Jacobs. Et là, je me dis, j'aime bien parce qu'en fait, on dirait un hautbois qui chante. Donc c'était le côté instrumental en fait qui m'a intéressé, le côté avec des sons filés, un vibrato contrôlé et un vibrato utilisé de manière ornementale et expressive comme le requiert cette musique là. Après c'est très différent quand on passe à de la musique plus tardive, évidemment là il faut passer l'orchestre, donc c'est une autre performance. Mais pour Bach, pour Monteverdi, pour Handel, pour voilà, il faut effectivement avoir cette couleur très souple, très mobile, comme un hautbois, comme un basson, et puis on a juste du texte en plus. Et c'est ça qui est intéressant. On est, chez Bach en tout cas, on est un instrument parmi les autres. Et c'est vraiment ça qui m'a plu, donc j'ai essayé, chez moi, bêtement, et je me suis dit, ah oui, il semble que j'ai un instrument à disposition. Je faisais du piano à ce moment-là, donc j'ai travaillé un peu dans mon coin, et puis j'ai fait écouter à mes parents, vraiment, enfin j'avais pas trop de honte à l'époque. Et ils m'ont dit, on va te payer des cours de chant. Et puis voilà, donc du coup j'ai eu des cours de chant, puis après j'ai fait le CNSM de Lyon, voilà. Mais pour répondre à cette question plus philosophique sur ma place dans ce monde, non,
elle est totalement justifiée. La page Wikipédia, je dois me tromper. Vous deviez apparaître dessus.
Mais en fait, je suis le contre-ténor qui n'a pas cherché à être médiatisé non plus, parce que ce n'est pas ce qui m'attire, et qui a cherché à faire des répertoires que personne ne fait. Par exemple, la musique médiévale, très honnêtement, avant moi, il y en a peu qui l'avaient fait.
Du portugais.
Ouais,
vous êtes allé chercher le Soledad.
Oui, je suis allé chercher la musique portugaise de la Renaissance.
Et c'est très beau également.
C'est magnifique. C'est une musique qui a un charme extraordinaire. Là, on s'intéresse au frottol. Donc, c'est pareil. C'est une musique.
Frottol, et voilà, italien. Là,
voilà, c'est... musique italienne de, entre 1470 et 1530. Hein, c'est ça, les frottol. C'est vraiment très, très court, ce mouvement-là. Et, ben voilà, moi, avec d'autres ensembles, je fais du Vivaldi, je fais du Handel, des choses comme ça.
Pergolèse, vous avez Stabat Mater, vous l'avez chanté.
Stabat Mater de Boulez.
Pergolèse.
Non, Pergolèse.
Non, c'est Pergolèse.
Pardon.
J'ai bredouillé. J'ai parlé trop vite.
Bien sûr, ben, je l'ai chanté encore il y a 15 jours à Guebwiller en Alsace.
Et ce sont deux voix de contre-ténor qu'il faut, non ?
C'est plutôt soprano et contre-ténor. Donc c'est généralement une femme qui va chanter la partie aiguë. Et oui, ça je le fais très souvent. Ça fait partie du répertoire, c'est-à-dire qu'on pourrait faire le concert sans même répéter, tellement on le connaît. J'ai fait le Sabbat Mater de Vivaldi aussi, donc tout ça je le fais avec d'autres ensembles. Avec mon ensemble, j'avais envie d'élargir le répertoire pour les contre-ténors qui s'y intéressent. Donc c'est pour ça aussi que j'ai redécouvert la musique de Cazzati, de Monferrato, voilà des choses qui étaient tombées dans l'oubli. Et bah, j'espère que d'autres contre-ténors vont s'y intéresser dans le futur. Après voilà. Et c'est vrai que moi j'ai pas cherché plus que ça à briller sur les grandes scènes d'opéra. Et d'ailleurs j'ai bien fait parce que j'ai 47 ans et ma voix n'est absolument pas abîmée, alors que je connais beaucoup de collègues qui ont mon âge, qui ont fait beaucoup d'opéra, et ça fatigue énormément.
Vous ne les avez pas encore, les 47 ans ?
Je les aurai d'ici peu, dans 2 mois, 3 mois. Oui, je commence à m'habituer. Déjà, je dis que j'ai 50 ans, comme ça, je m'habitue, et on me dit « Ah, tu fais jeune, donc c'est bon. »
Votre voix devrait-elle, évoluera-t-elle ou c'est,
Sûrement, oui. Sûrement. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Je ne sais pas quelle est la partie qui va fatiguer en premier, parce que forcément ça va fatiguer, c'est un muscle. Je n'ai pas trop d'idées. Pour l'instant, elle est très stable. Je n'ai jamais aussi bien chanté que maintenant, en fait. C'est-à-dire que je suis, comment dire en anglais, a late bloomer, quelqu'un qui s'épanouit sur le tard. Et j'ai commencé à bien chanter à 38 ans. Avant, bah oui, je faisais des trucs, mais j'étais jamais vraiment satisfait de ce que je faisais. Je trouvais que c'était très bidouillé. Il y avait des, voilà, quand j'entends les anciens disques, je me dis, ouf, aujourd'hui, je ferais plus comme ça, ce qui est normal. On évolue. Et aujourd'hui, à partir du disque No Time in Eternity, justement, je me suis, ma voix, j'arrive à en faire à peu près ce que je veux. Ça, c'est quand même une chose que certains ont à 25 ans et puis d'autres à 40. Donc je suis un peu lent comme garçon, donc je sais plus à quel âge j'ai enregistré ce disque, 39 ans, quelque chose comme ça, 40, et c'est vraiment ce disque qui m'a fait prendre conscience, l'enregistrement de ce disque, alors que la musique est tellement exigeante, tellement fatigante, et je me suis dit, ça y est, maintenant j'arrive à gérer un enregistrement sans être à faune au bout de 2 jours. Parce que c'est quand même le piège, c'est que c'est extrêmement fatigant d'enregistrer, surtout cette musique-là qui est si exigeante, qui a une tessiture vraiment très grande, à la fois grave et aiguë. Et du coup, là, je me suis dit, ça y est, ça commence à me plaire.
Nous parlons bien de cet enregistrement, Michael Nyman, c'est ça ?
No Time in Eternity, exactement.
Pour vous, une
c'est ça, moi,
composition.
Voilà, c'est une commande. Je ne sais pas si j'en parle maintenant ou après de cette aventure avec
Prospero's Book, c'est ça ?
Voilà, j'ai découvert Prospero's Books, le film de Peter Greenaway. L'adaptation de La Tempête de Shakespeare en 92.
Vous avez d'abord découvert la musique, non, c'est pas ça?
Mais vous êtes super bien renseigné. J'ai d'abord découvert la musique. La première plage que j'ai écoutée, je me suis dit, c'était une plage chantée. Je me suis dit, c'est bizarre quand même cette musique. Et après, j'ai écouté une autre plage tout de suite après. Je me suis dit, j'adore. Il y avait un côté baroque, justement, néo-baroque. Et après, j'ai découvert le film, effectivement. Et puis que j'ai regardé un millier de fois parce que c'est un orgasme esthétique absolument ahurissant. Enfin, je conseille à tout le monde de le regarder. Enfin, avec John Gielgud dans le rôle de Prospero, c'est incroyable. On peut pas faire mieux, je pense. Et donc cette musique de Nyman c'est la bande son de ma vie, j'ai envie de dire. Et je connais tellement bien sa musique, il m'a dit que je pourrais être son hagiographe. Ça m'a fait très très plaisir. Et puis il y a eu des rendez-vous ratés. Et puis j'ai fini par aller le voir à Londres en 2014, et je lui ai dit j'aimerais avoir 5 minutes de musique. Il m'a dit non, il faut au moins 10 minutes, tout ça. Donc ça s'est fait très très naturellement, et puis il a délivré ce magnifique cadeau, No Time in Eternity, qui est composé pour voix et 5 violes de gambe sur des poèmes de Robert Herrick, qui est un poète de la Renaissance très métaphysique. Voilà.
Alors j'étais en train de caler le morceau et finalement je crois que je me suis trompé. Il faut plutôt écouter la fin. Là j'étais en train de mettre 8 minutes 20, mais c'est 8 minutes 20 je crois qui reste. Alors
non,
que non,
il faut 8 minutes 20, il restera 2 minutes.
Voilà, il faut qu'il en reste 2 minutes. Je vais réussir à caler ça. C'est un enregistrement qui commence en 2016, c'est ça je crois. Ça fait quelques temps déjà.
Un peu plus, non
je Même sais un plus. Peu plus. Est-ce que je l'ai sous les
je
yeux
Je me rappelle plus.
Qu'est-ce que je vois indiqué
17.
Comme date?
Ah oui, déjà 17, ouais.
Vous étiez encore au lycée Saint-Louis Saint-Bruno pour
toujours en résidence là-bas. C'était notre premier enregistrement à Saint-Louis-Saint-Bruno, effectivement. Et là, ce qu'on va entendre, c'est la fin de la pièce qui s'appelle No Time in Eternity, qui est donc le titre de l'album. Et ça évoque les pouvoirs guérisseurs de la musique, les pouvoirs évocateurs de la musique.
Je suis presque en train de réussir à le caler, donc
ça,
a priori.
C'est bien, c'est une bonne nouvelle.
Il devrait en rester 2 minutes 30, on avait dit, c'est ça, je crois, oui, à peu près. C'est donc la fin de ce morceau. C'est une longue plage, qui dure 10 minutes.
Oui, ça dure 10 minutes, ouais. C'est une œuvre qui dure une dizaine de minutes.
Je suis pas sûr qu'on sera au.
On va faire un magnifique fade in.
À 8-20 pile, mais on devrait dans ces.
Mais Marie fait déjà le calcul sur son téléphone. Mais je peux continuer à parler, il n'y a pas de problème.
Vous l'avez indiqué, c'est l'enregistrement que vous avez donc passé commande. Michael Nyman vous a entendu.
Voilà, exactement. Et puis, en fait, très gentiment, il m'a accueilli chez lui à Notting Hill. Et très, très vite, on est tombé d'accord sur à la fois les arrangements qu'il fallait faire pour le disque sur ses anciennes pièces. Et puis, donc, cette nouvelle pièce, quel caractère on voulait lui donner, tout ça. Et puis, on avait le soutien d'Ambronet, on avait le soutien du Gram. On avait eu. C'était une grosse aventure qu'on a mise en place et puis qui a beaucoup tourné et qu'on va reprendre d'ailleurs. Très bientôt au Festival de Pontoise le 24 mai 2024 et ça sera dans le cadre du Musée des Couants. Voilà, donc on va le reprendre fort bientôt. C'est vraiment super chouette de reprendre ce programme qui est tellement beau.
J'espère que ça va fonctionner.
Écoutons. Allez, on va voir.
Donc c'est No Time in Eternity, extrait de l'album, c'est la pièce éponyme, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Un texte de Michael Nyman lui-même.
Non, pas du tout. Vous n'avez pas écouté car vous étiez en train
exactement,
de...
Exactement, c'est
de
ça.
Robert Herrick. C'est voilà, ça, le fameux... Tout, voilà. Mais par contre, la musique est bien de Nyman.
Ah bah mince, le CD bloc, qu'est-ce que c'est que ça ?
Losing,
auditeurs, auditrices, on devrait faire comme, je crois que c'est Radio France ou RTL aussi, on devrait filmer les émissions. Vous avez manqué Paulin Bungen qui à l'instant a chanté la même note, c'est ça? Vous avez
fait la finale.
Paulin Bungen, vous nous faites un grand honneur de venir nous parler de vous. C'était un peu cette première partie d'émission, une belle première partie. Il faudra bien réentendre tout cela. Et vous venez nous parler aussi de... Bah, en fait, on va reprendre un peu la chronologie. Vous venez nous parler de l'ensemble de Céladon que vous avez fondé en 1999. Il y a donc 25 ans de cela.
Déjà.
Vous venez nous parler des festivités qui ont lieu sur cette année 2024. Il y a déjà eu une sorte de première partie avec Antonia. Antonia de Sang-Froid, Mystère en ré mineur. Hein.
Bravo.
Je crois que c'était
exactement le titre
précis. C'était exactement. Donné au Théâtre des Marronniers. Texte ainsi que adaptation mise en scène de Reda
Chéretia.
Voilà. Le spectacle est terminé.
Le spectacle est terminé au Marronnier. Il va y avoir des reprises, puisqu'il y a une reprise cet été au Festival du Haut-Jura, une reprise l'année prochaine à Évreux. Donc voilà, on est en train de travailler. Ça vient tout juste de s'arrêter. Donc,
c'est une très bonne chose, parce que c'est un spectacle vraiment très intéressant. Vous en avez dit déjà une sorte d'un petit mot en parlant des Frottole.
Voilà, alors en fait, on est parti d'un tragique fait divers, hein, puisque la femme du compositeur de Bartolomeo Tromboncino, Antonia, son épouse, a été retrouvée morte.
En 1950.
L'action est transposée en 1950, mais son meurtre a eu lieu en 1499. Et en plein, donc, dans cette période de Frottole qui fait chanter et danser toute l'Italie du Nord.
Oui, c'est à Mantoue, c'est ça que ça a lieu.
À Mantoue, exactement. Et la plupart des sources désignent Tromboncino comme étant le coupable du crime. D'autres disent, mais c'est plus rare, que peut-être le crime aurait été commandité par la cour d'Isabelle d'Este pour récupérer le compositeur qui avait du coup plus ou moins été pas banni de Mantoue, mais était plus très bien le très bienvenu, on va dire.
Il arrive plutôt chez les Borgia, je crois, alors.
Après, il va chez les Borgia, il finit sa carrière chez les Borgia, ce qui est quand même assez incroyable. Et à l'époque, il faut bien se dire que si une femme était adultère, c'était le devoir du mari de la faire tuer, mais pas de la tuer directement. Et là, il n'a pas commandité le crime, apparemment, sauf si c'est la cour d'Isabelle d'Este qui l'a fait et que lui soit innocent. Mais si c'est lui, ça veut dire qu'il l'a trucidé lui-même, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Parce que justement, le crime d'honneur, il fallait le réparer quand même avec une certaine classe. Donc c'est absolument terrible et on s'est dit, moi je me suis dit, cette période de la Renaissance qui produit tant de beauté avec les tableaux de Botticelli, de Leonard Vassy, avec toutes ces musiques.
Mais Caravage c'est plus tard.
Le Caravage est plus tard. Tous ces poèmes, toute cette littérature. Et à côté de ça, on n'hésite pas à massacrer quelqu'un quand il est gênant. Finalement, c'est cet antagonisme, moi, qui m'a intéressé. C'est vraiment le crime en bas de soi, quoi.
Et vous en faites quelque chose d'intéressant, enfin Reda Chéretia en fait quelque chose d'intéressant, puisque Antonia aurait pu peut-être composer un peu aussi.
C'est une suggestion qui est faite, puisque effectivement dans les livres de Frottole, il en existe 9 qui sont édités à Venise dans les années 1500. Il y a des textes qui sont signés, des musiques qui sont signées par Tromboncino, Marchetto Cara, voilà, des hommes à chaque fois. Et puis il y a beaucoup de textes anonymes. Les textes anonymes, ça peut être sujet à beaucoup d'interprétations. Est-ce que c'est vraiment des gens qui ne voulaient pas signer parce que par exemple ils appartenaient à la noblesse et que c'était impensable quand on était noble de travailler, donc on n'allait pas se faire éditer. On pouvait jouer sa musique devant son cercle d'amis, mais pas la diffuser en tant que compositeur parce que c'était très mal vu. Donc ça peut être des nobles qui ont composé ces musiques-là sans laisser leur nom, mais ça peut être aussi le travail de femmes qui parfois écrivent au féminin. Donc il y a des textes qui sont, il y en a très peu, ils sont très minoritaires, hein, mais il y a des textes qui sont signés, enfin qui sont écrits à la première personne du pluriel, du féminin, je vais y arriver. Voilà, vous m'avez troublé là, maintenant j'étais en train de me dire, mon Dieu.
Je suis la reine du ciel, c'est ça?
Voilà,
non, c'est
exactement, donc son fortuna omnipotente, je suis toute puissante, je suis la fortune, la reine du ciel. Ça pourrait tout à fait être Isabelle d'Este elle-même qui est signée cette pièce-là. Donc nous on est parti du principe que de tout temps les femmes se sont fait voler leur travail,
l'invisibilisation,
voilà, exactement comme Colette au début du siècle par son mari Willy qui signait à la place de sa femme ses premières œuvres. À la Renaissance bien évidemment c'est encore plus le cas, donc on s'est dit il faut
on inverse l'ordre, hein, on dit bien Pierre et Marie Curie, c'est terrible, on devrait dire
c'est
Marie
terrible.
Et Pierre Curie,
et quand on demande à Pierre Curie qu'est-ce que ça fait d'être un génie, il répondait je ne sais pas, demander à ma femme. Heureusement.
Il est bien.
Mais voilà, mais c'est le seul. Et du coup, on s'est dit, bah oui, Antonia, femme de compositeur, forcément, elle devait aussi jouer du luth, de l'épinette, elle devait chanter et sûrement, elle devait composer. Donc on est parti là-dessus et Reda a décidé donc de transposer, enfin on a décidé ensemble parce que moi je lui avais parlé de Cluedo, de Woodenit,
voilà,
Agatha Christie,
qui a fait le crime.
Et ça vraiment ça l'a complètement inspiré et donc il nous a fait toute une pièce sur qui est le coupable avec des interrogatoires, avec des fausses pistes et puis souvent le tueur est protégé parce que quelqu'un va mentir, voilà, donc et à la fin, bah la fin non je ne la dirai pas puisqu'il faut voir le spectacle.
Et ça marche. Ça marche. Les comédiens, les musiciens font de fort bons comédiens. Nolwenn Legard en tête, elle prend un rôle très, très important. Et donc, c'est très bien, la transition est tout amenée. Donc, ça, c'était un spectacle Antonia qui s'est terminé. Il reste encore des festivités. Vous avez parlé d'une sortie d'un album le 5 juillet à venir. Il y aura un concert à Namur aussi. Mais peut-être qu'on pourrait repartir un petit peu en arrière. On est dans les années, fin des années 90, 98-19. Nolwenn Legard, vous ne l'engagez pas tout de suite dans l'ensemble. C'est
est-ce qu'elle est née à ce moment-là?
Oui, c'est une toute jeune femme qui joue donc la viole de gambe également. Oui,
elle joue aussi du luth.
Voilà.
Voilà, et elle joue, elle a fait du violoncelle aussi beaucoup.
Classique, ça.
Et voilà, elle a commencé par ça, mais c'était vraiment les instruments anciens qui l'intéressaient. Non, alors au début, je l'ai fondée avec Florence Bolton, qui maintenant travaille avec son époux Benjamin Perrault, avec l'ensemble La Rêveuse, qui est un magnifique ensemble. Donc ils font des tas de projets, ils sont basés à Orléans, ils font des choses vraiment magnifiques. Et donc Florence était dans le groupe à sa formation. Et Rémi Cassaigne, qui est luthiste, et Rémi travaille encore avec nous, il y a encore des projets avec lui. Alors après, évidemment, les choses ont évolué, la distance aussi parfois fait qu'on travaille moins avec des gens qui sont à Paris qu'à Lyon, ce qui paraît assez logique d'un point de vue économique aujourd'hui, et écologique d'ailleurs aussi. Et du coup, voilà, ouais, 99, je fonde l'ensemble alors que je suis encore étudiant, pour faire de la musique justement qui me plaît, me faire du sur-mesure.
C'est vraiment de... Vous êtes à Lyon ? Vous êtes arrivé à Lyon ?
Oui, je suis à Lyon à ce moment-là. Je suis arrivé à 18 ans à Lyon.
Le concert de l'Hôtel Dieu, Franck-Emmanuel Comte, vous...
J'ai beaucoup travaillé avec eux.
À ce moment-là ou plus tard ?
Oui, aussi à ce moment-là. Oui, à partir de 2000-2001, quelque chose comme ça. Je travaillais 20 ans avec eux. Sur deux décennies quand même. J'ai fait énormément de projets avec eux. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bon, là, moins ces temps-ci, mais c'est le dernier concert que j'ai fait avec eux, c'était il y a 4 ou 5 ans, pas si longtemps avant le Covid. Donc voilà, je pense 2018-2019.
Maintenant, vous laissez Amé et ce sont des sopranos davantage, c'est ça? Heather Newhouse.
Oui, bien sûr, chante. Oui, bah, j'ai chanté avec elle. Elle était là, d'ailleurs, elle est venue voir Antonia de Sang-Froid le mardi après-midi.
Ah, je l'ai manqué.
Voilà, et oui, elle était là avec ses deux enfants.
Ce sera une prochaine invitée, on essaiera de la voir.
Ah, bah oui, il faut.
Nous avions reçu dans l'émission, je vois l'émission 142, le mercredi 18 octobre, c'était 2017, nous recevions Mariana Delgadillo Espinosa,
qui est l'ensemble Alchimia. Voilà, et avec qui Nolwenn travaille beaucoup, et qui sont basés à Francheville maintenant.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il n'y a donc pas ce qu'on pourrait peut-être penser, il n'y a pas de, comment appeler ça, de compétition, de concurrence entre ces deux ensembles.
Non, il n'y a pas d'exclusivité en fait, il faut pas qu'il y en ait, parce que sinon ça serait vraiment dommage. Les gens déjà, bon, peuvent avoir des envies, moi-même, hein, ça m'est arrivé de vouloir arrêter de travailler avec certains ensembles, parce que ça ne me correspondait plus, parce que j'avais pris d'autres tournants à ce moment-là qui m'amenaient vers d'autres projets, d'autres choses. Donc il faut jamais essayer de coincer les gens dans un ensemble. Il faut essayer de ne pas se coincer non plus dans un ensemble. Il faut pouvoir toujours être libre de pouvoir aller à droite, à gauche. Après, la fidélité, moi, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc Nolwenn, Caroline, je la connais depuis qu'on a 18 ans. On était au conservatoire à Fourvière ensemble. Elle était en piano, moi j'étais en chant et on se croisait dans les couloirs. Et donc Caroline, ça fait depuis vraiment très très longtemps que je travaille avec elle. C'est celle avec qui j'ai fait le plus de concerts de ma vie.
L'instrument qu'elle joue, donc vous avez dit, elle était en piano et elle bascule sur...
Elle a basculé au clavecin, voilà. Clavecin, donc elle a fait le clavecin et l'instrument qu'elle a dans Antonia de Sang-Froid, c'est un clavicitérium, donc c'est le même procédé qu'un clavecin, sauf qu'au lieu d'avoir les cordes de manière horizontale, elles vont être de manière verticale, et donc la table de l'instrument va être face à l'interprète, qui sera du coup de dos. puisque le son est directionnel. Donc pour que le public entende, il faut que les cordes soient en face du public, mais du coup, ça veut dire que l'interprète est de dos. Heureusement, comme elle avait plein de choses à jouer avec du jeu de théâtre, elle pouvait s'exprimer aussi de face, ce qui est quand même mieux.
Donc nous sommes retombés sur nos pattes. On est fin des années 90, 99, l'ensemble Céladon est fondé et il n'a jamais cessé.
De
faire des concerts, des enregistrements.
Oui. On a commencé à décoller de manière tout à fait raisonnable, hein, mais vers les années 2005, 2006.
Premier enregistrement, c'est ça, le Soledad.
Premier enregistrement, Soledad, c'est 2006, je crois.
C'est
2005.
Ah oui.
Il est sorti en 2006. Et quelle était la question?
Eh bien, c'est le premier enregistrement, c'est ça. Le
premier enregistrement. Soledad Tengo Detti. Ça veut dire j'ai solitude de toi. C'est très beau. Soledad, oui, c'est le regret, c'est la mélancolie. On est déjà très proche du fado finalement dans l'esprit, avec cette espèce de douleur très lusitanienne, qui est si belle. Et puis, on est en même temps très proche de l'Espagne, hein, puisque bah, les deux pays étaient
Tango,
rivaux et frères en même
tango,
temps.
Tango, le mot est espagnol.
Oui, complètement.
En portugais, ce serait plutôt tenho, avec un H à la place du G.
Je vois qu'on a affaire à un spécialiste.
Ah, le prochain invité, Tiago Guedes, directeur de la Maison de la Danse, est portugais, donc je me suis mis au portugais pour préparer l'émission.
Ah, juste pour ça. On va devoir parler en forésien pour.
pour finir, Bosseigne. On propose. Mais moi, je l'ai pas, le Bosseigne.
Bosseigne.
Vous l'avez placé dans le spectacle?
Non, je ne l'ai pas placé, Bosseigne. Non, j'ai dit Fouilla. J'ai dit Fouilla et il y a eu un fou rire, du coup. Et mes partenaires m'ont maudit.
À Lyon, forcément.
Mais oui. Mes partenaires m'ont maudit, vraiment. Elles n'arrivaient plus à repartir. Et moi, je ne savais pas, j'étais en loge.
2005, Soledad Tengo Detti. Est-ce qu'il serait temps de faire une pause, peut-être? Puisqu'on est en train de parler des Frottole, puisque moi, je suis également en train de partir dans un éclat de rire. On met ce morceau. C'est donc. Il est chanté dans.
Non,
dans le spectacle.
Non,
mais c'est la Frottole. Là,
ouais, là c'est ça, une Frottole, effectivement. Nun qua fu pena maggiore, et donc il n'y a pas de peine plus grande que celle d'aimer. Hein. C'est toujours le même thème. Ce sont que des chansons d'amour. C'est Frottole, c'est l'équivalent des chansons d'aujourd'hui de Brel, Brassens, Barbara. C'est vraiment complètement comparable.
Forme courte, c'est ça aussi.
Forme courte et considérée à l'époque comme de la musique non savante, mais de la musique populaire. Alors, je vous laisse écouter la musique populaire de l'époque. C'est pas tout à fait la même que celle qu'on écoute maintenant.
Ah oui, des applaudissements. Il y avait une sorte de blanc, donc c'est une prise.
C'était à France Musique, ça. C'était dans l'émission Le Live, Génération France Musique. Votre concurrente directe.
Ah, non, comme pour les ensembles, il n'y a pas de compétition.
Compétition, c'est une chose affreuse.
Entre les différentes stations radio, les différents ensembles. Paulin Bungen, vous êtes notre invité pour parler de vous-même. Vous l'avez beaucoup fait et c'est très bien. Et il reste encore beaucoup de choses à dire sur l'ensemble Céladon, fondé au siècle dernier. Rendez-vous compte, auditeur auditrice, en 1999. Il fête cette année, 2024, ses 25 ans. Il y a déjà eu des premières manifestations. On a évoqué Antonia de Sangfroid, Mystère en ré mineur, qui était, c'est vraiment il y a à peine 10 jours au Théâtre du Marronnier.
Et un peu
plus tôt, autour de la mi-février, il y a eu également une belle œuvre, un oratorio.
Un oratorio de Scarlatti, d'Alessandro Scarlatti, qui s'appelle Il Trionfo della Grazia, qui est c'était le dernier oratorio qu'on a fait dans le cadre d'une résidence à la Chapelle de la Trinité et les grands concerts de Lyon, organisés conjointement avec la ville de Lyon. On a fait trois oratorios dans ce cadre-là. On a d'abord fait un oratorio de Legrenzi, ensuite un oratorio de Giannettini, que personne ne connaît, et on a fini par Scarlatti, qui est quand même un petit peu plus connu. Et à chaque fois, c'était le deal, c'était d'avoir des oratorios mis en scène. Donc j'ai fait la mise en scène aussi de ces œuvres-là. J'ai pris un plaisir coupable. J'ai adoré ça. J'aimerais bien, si quelqu'un veut un jour m'embaucher en tant que metteur en scène d'oratorio.
Costume aussi, c'est ça?
On a travaillé avec une super costumière, éclairage incroyable, surtitrage, c'était vraiment un opéra complet, quoi. Et du coup, ça c'était effectivement début février, et maintenant, de toute façon, notre résidence s'arrêtait cette année-là, et puis les grands concerts vont passer à d'autres aventures, la chapelle Ampère aussi, puisque c'est l'Hôtel Dieu qui va reprendre la gestion, mais les grands concerts vont continuer à se produire à Lyon, dans d'autres lieux, mais je ne peux pas en dire plus.
Voilà. Nous écoutions donc juste avant ce titre Nunquam fu pena maggiore, qui était donc
una frottola
de l'époque, donc la musique populaire à la Barbara Jacques Brel.
Oui, alors voilà, quand je disais la musique, oui, la chanson française, en fait, je voulais dire la chanson qu'on fait en s'accompagnant au piano ou à la guitare, c'est vraiment la même chose à l'époque. Donc c'est pas Maître Gims, 1470, c'est ça, l'époque de Laurent le Magnifique. Et on va faire, puisque c'est vraiment notre axe de recherche depuis un an ou deux.
Ça c'était la pièce Antonia.
On va continuer notre travail autour des frottoles avec un concert qui s'appelle Primavera, qui est directement inspiré du tableau de Botticelli, Le Printemps, qui est complètement contemporain de cette musique-là. Et on va faire un concert, notre concert anniversaire. On va d'abord le créer à Noirlac, au Centre culturel de rencontre de Noirlac, au mois de juin. Et puis on le reprend le 25 septembre à Lyon, dans la cour du musée Gadagne. Ça va être magique. Et il faut savoir que les Gadagnes sont les Guadagni, en réalité, et qui ce sont des familles italiennes florentines qui a été chassée par Laurent le Magnifique parce que trop puissante. Donc, quand il a vraiment assis son pouvoir, la famille Gadagne est partie et venue s'installer à Lyon dans un hôtel particulier qui existait déjà et donc qui est devenu l'hôtel de Gadagne. Et donc, ils ont apporté évidemment avec eux dans leur bagage des frottoles. Incroyable, la boucle est bouclée.
Tout est dans tout. Ouais. Et réciproquement,
j'adore
c'est ça. Très bien. Dialogues amoureux dans l'Italie de la Renaissance, c'est le programme anniversaire de ce 25 septembre prochain.
Avec plein d'instruments bizarres, la lyra d'Abraccio que jouait Nolwenn dans l'extrait qu'on a entendu, le clavicitérium, il y aura un luth Renaissance, de la percussion, deux voix, des flûtes, ça va être super. C'est la fête, mais la fête classe.
Est-ce que vous ne serez pas le seul chanteur? Il y aura donc...
Non, il y aura Clara. Il y aura ma copine Clara. Donc on va...
Soprano, alto?
Soprano, on dirait soprano 2. C'est-à-dire pas la soprano aiguë, mais celle le jambon dans le gratin. Mais c'est ce qu'on dit dans notre programme de O Gracias Anglia, on explique comment faire un faux bourdon, et Anne, la troisième chanteuse, qui est la voix la plus aiguë, nous dit toujours que la farce, c'est Clara.
Mais pas la voix d'alto non plus.
Non, ça c'est moi. Ah bah non, je veux pas.
Ah, oui,
non. Moi je suis la voix d'alto, elle la voix. Non, c'est la voix de soprano typique du 16e ou du 17e siècle, pas très aiguë encore, parce qu'à l'époque, on chante les frottoles, on les chante dans des lieux petits. On n'est pas encore dans des grandes salles de concert, et c'est là que les voix, les tessitures vont de plus en plus s'élargir pour remplir des espaces de plus en plus grands, en fait, tout simplement.
Vous ne pourriez pas chanter avec une alto, comment dire, à l'oreille, les voix se confondraient un peu, c'est ça,
ou
c'est...
Ah, si, oui, ça serait très intéressant d'ailleurs d'avoir deux voix égales, c'est ce qu'on appelle les voix égales. C'est exactement, par exemple, ce que François Couperin a fait dans la troisième leçon de Ténèbres, où ce sont vraiment deux voix égales de soprano qui se mélangent et elles se passent l'une sur l'autre en permanence. On ne sait plus qui chante au final. Et ça, c'est complètement jouissif à faire aussi. Mais avec Clara, on a déjà toute une tessiture très très commune. Bon, dans Antonia, c'était moins le cas parce que c'était effectivement plus du dialogue que du duo. Mais on a des programmes où on est vraiment en duo et où les voix, parfois même en enregistrement, des fois je me dis, tiens, qui chante là? C'est Clara, c'est moi? Non. Voilà, donc on a toute une partie de tessiture qui est très très proche. Et puis voilà, elle a quand même une tessiture plus aiguë que la mienne.
Paulin Bungen, 14h51, on approche de la fin d'émission, il nous reste encore un petit peu de temps. Auditeur, auditrice, ce n'est pas la chronique presque littéraire de Francis, l'ami Francis n'est pas présent aujourd'hui.
Je peux la faire.
Il ne sera pas présent dans les prochaines émissions. Ah, est-ce que vous auriez lu un polar dernièrement? Ah ben oui, Antonia était un peu programmé dans le...
C'était même complètement dans le quai du polar.
Les quais du polar,
ouais. Bah non, le dernier polar que j'ai lu, c'est le dernier Fred Vargas que j'ai pas du tout aimé, donc... beaucoup moins que les autres.
Est-ce que l'acoustique était bonne pour le Théâtre des Marronniers?
Alors, c'est une acoustique qui est finalement, à mon avis, assez proche des acoustiques qu'on pouvait avoir dans les salons de la Renaissance, dans les studios low, où on exhibe des instruments, comme un cabinet de curiosité finalement, où il y a des partitions, il y a des tableaux, il y a voilà, toutes ces choses qui attisent la curiosité du curieux, ça veut rien dire, mais on se comprend. Et du coup, bah, finalement, je pense qu'on était assez proche d'une acoustique où il faut être assez près pour vraiment être au plus près du son, par exemple du son du luth. Ça c'était magnifique pour le luth et le clavicitérium. Pour la voix c'est un peu différent parce qu'on a effectivement l'habitude de chanter nous beaucoup dans des églises, donc des lieux assez réverbérants. Et ben là on avait très peur au début, on s'est dit on va pas aimer, et puis finalement si, c'est assez jouissif parce que on a une proximité avec le public, on peut vraiment chanter très très petitement, très finement, on sait que ça passera toujours. Donc j'ai bien aimé moi au final.
Moi aussi.
Bon, bah, tant mieux, tout le monde est content.
Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'on écouterait un autre titre? Peut-être qu'il en reste deux. Je propose qu'on en écoute un et le dernier sera en fin d'émission pour se saluer.
On pourrait, parce que
il nous reste le Démonte Lapis et le Jubilate Deo.
Le Jubilate qu'on peut écouter pas en entier, donc je vous ferai stop quand il faudra le couper. Oui, on peut écouter Monteferrato, effectivement, parce que voilà, moi j'aime bien montrer qu'on redécouvre des musiques qui ont été oubliées dans les bibliothèques. Moi j'ai deux sœurs archéologues et je me destinais à être archéologue aussi, et ben finalement c'est un peu ce que je fais, je remets sur les feux des projecteurs des gens qui ont été oubliés. Et Monteferrato c'est quand même le successeur de Cavalli au poste de maître de chapelle de Saint-Marc de Venise, donc c'est quand même pas rien, c'est un très gros poste, mais il est pas, je pense que voilà, il est pas resté très connu parce qu'il a pas écrit d'opéra. Et a priori, ça lui a porté préjudice. Par contre, il a laissé des motets incroyables qui n'ont pas été joués depuis le 17e, comme ce Jubilate Deo.
Zut, l'autre titre, ce sera le titre pour se dire au revoir, et c'est le titre...
Alors, l'autre titre, c'est Démonte Lapis Finditur, c'est un conduit. Donc, un conduit, c'est, ce sont des compositions au Moyen-Âge qu'on compose pour meubler les blancs dans les cérémonies religieuses, tous ces moments où il y avait du silence. On les accompagne, on les conduit avec de la musique, et c'est dans un disque qui s'appelle Hieros, qui veut dire divin, sacré en grec, et un disque qui mélange donc ses conduits avec des musiques écrites pour nous par le compositeur Jean-Philippe Goud.
Et c'est très récent, hein, je crois.
C'est un disque il y a quelques années à peine. C'était hier.
Donc ça, ce sera pour se saluer en fin d'émission. Là, écoutons d'abord. Ben, c'est dommage. Hein, c'est vrai, le lancement était très bien fait, Paulin. Je suis absolument désolé.
Ah oui, c'est vraiment.
Écoutons le Jubilate Deo de Beata Maria. Peut-être un ou deux mots sur le texte.
C'est un impératif. Oui, c'est un chant qui célèbre le jour de naissance de la Vierge Marie, en fait. Donc on jubile avec Dieu car Odier. Donc aujourd'hui est née la Vierge. C'est pour, voilà, De Beata Virgine Maria.
Vous m'aviez fait signe.
C'était très bien. Non, c'est parfait.
Ah bon, bah, très bien.
Quelle coupure de maître.
Merci beaucoup, Paul Imbuyen. C'est vous ainsi que Marie qui avez assuré une belle programmation musicale. On aura écouté beaucoup de titres. Il en reste encore un dernier. Vous l'avez déjà un peu présenté, extrait de l'album Hieros. À l'instant, c'était plutôt l'album, vous avez dit.
Monferrato. Voilà, Nathalie Monferrato. Donc, cet inconnu qui mérite de ne plus l'être, car sa musique est vraiment d'une qualité incroyable.
Fin d'émission, nous allons encore parler encore quelques petits instants de l'ensemble de Céladon, mais voilà, annonce de fin d'émission, à l'agenda il y a tout de même peu de choses, ce sont les vacances scolaires actuellement, donc les maisons culturelles lyonnaises, différentes institutions lyriques font un peu relâche. Pour de la musique, il y a tout de même quelques concerts intéressants à l'auditorium, il y a un concert Afterwork, notamment la semaine prochaine. L'Afterwork, ce sont les concerts qui sont donnés en fin d'après-midi, c'est un peu le pendant des concerts qui sont donnés à midi, qui s'appellent les concerts... il s'appelle les concerts, je crois, midi là-haut. Là, c'est le concert Afterwork, c'est-à-dire que c'est à 19h. Et il y a un programme intéressant, je crois que c'est du jeudi, je crois, parce que je n'ai plus les éléments sous les yeux. Je vais les retrouver. J'ai plein de choses. La Maison de la Danse, non. La Maison de la Danse fait relâche aussi. Le Théâtre des Célestins fait relâche. Le Théâtre aussi, TNP fait relâche. En revanche, voilà. Le concert Afterwork, non, ça, c'est pas celui-ci encore, ça c'est un autre. J'ai Nouvelle Saison de Danse, non, ils font relâche tout ça. Tigrane, je vais l'évoquer dans quelques instants, je les avais l'Afterwork. Ah voilà, Afterwork, le mardi 23 avril à 19h, Afterwork numéro 3, Sérénade. Ce sera la sérénade, la première de Brahms, qui sera donnée par l'Orchestre National Avignon-Provence, dirigé par Jochem Ostenbach, ou peut-être Jochem Ostenbach s'il est simplement avignonnais, ce que je ne pense pas tout à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Orchestre National de Lyon qui sera présent sur scène, l'orchestre sera plutôt présent ce samedi 20 avril. L'ami Gilles tout à l'heure en parlait, donc je ne vais pas faire redite. Il y aura une œuvre de Gavin Bryars qui sera donné ce samedi 20 avril. On vous recevra à nouveau, je crois, Paulin Bungend. Parce que
Paulin
Bungend, je voulais faire
le genre aujourd'hui.
Pauline Bungend, voilà. On vous recevra à nouveau parce que voilà, Gavin Bryars, il y a peut-être des choses qui se prépareront. Et puis peut-être avant les 50 ans de l'ensemble Céladon, peut-être pour les 30 ans ou même pour les 27 ans, ce serait une très bonne chose. Donc voilà, de la musique peu. À l'opéra, il n'y a pas de musique à l'opéra, il y a plutôt de la danse. C'est très bien aussi. Marie-Albert nous en parlait il y a de cela 2 semaines. Elle nous parlait de ce Merce Cunningham Forever. Hommage à Merce Cunningham avec deux œuvres, Beach Birds et Biped. C'est donné, ça a commencé hier, c'est donné jusqu'à ce dimanche 21 avril. C'est le ballet donc de l'Opéra de Lyon. Marie-Albert sera sur scène. J'y vais ce soir. Peut-être qu'un compte rendu sera mis en ligne sur le blog. Et puis pour le théâtre, eh bien, j'indiquais que les TNP Célestin étaient fermés. La Comédie Odéon, non, ne l'est point. Une très intéressante version de Don Juan est proposée. Je l'ai qualifiée sur le blog de version fraîche et pop. Et même également, comment l'appeler, contemporaine, puisque Don Juan est traité par Sganarelle, fils de pute. Bon, enfin bref, c'est une version très intéressante. Le texte de Molière est bien présent. Il y a eu quelques coupes et il y a eu quelques ajouts aussi. C'est, si vous souhaitez, auditeurs, auditrices, parents, parentes, si vous souhaitez y emmener vos enfants, ça peut être une bonne idée, puisque peut-être que l'approche du texte différente fera que vos enfants, vos adolescents pourraient un peu plus accrocher. C'est mis en scène et joué par Tigrane Mkhitaryan qui fait Don Juan. Un Don Juan qui est très bon, très beau, très très bien. C'est donné jusqu'au samedi 27 avril. C'est formidable. C'est bien cette Comédie Odéon avec Julien Poncet. C'est très intéressant. 20h30 les horaires et c'est très bien. Sinon les expositions, je pense que c'est la seule chose qu'il reste à faire. Bulukian va en commencer une nouvelle sur des éléments. J'ai perdu exactement ce que c'était, mais on en reparlera plus tard. Luc Dunhomme, l'exposition Bricus Maximus se termine. Oh, il reste encore un gros mois et demi. Et puis aux archives, il y a des canuts aux archives de Lyon, aux archives métropolitaines. Et puis aux archives départementales, il y a des cartes, un peu de géographie, jusqu'au vendredi 12 juillet. Puis pour terminer, oui, elle a commencé il y a cela 2 semaines, je crois, au musée de l'impression, de l'imprimerie plutôt, musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Oui. Ce sont nos voisins. Il y a une exposition Ghibli. Marie, mais vous pouvez parler si vous le souhaitez. Attrapez donc le micro, il est au-dessus de vous. Si vous souhaitez dire une exposition, je crois, Miyazaki sur le Hayao, me semble-t-il, de son prénom, sur le studio Ghibli. Ça commence début avril, je pense que c'est donné sur 3-4 mois, peut-être jusqu'à la mi-juillet, même peut-être fin août, ou même peut-être en septembre. C'est un beau lieu, hein, Paulin, musée de l'imprimerie.
J'adore le musée de l'imprimerie.
Il est très très bien et très frais. C'est peut-être important quand il se mettra à faire un peu frais. On a dépassé l'émission, il est 15h02, mais auriez-vous encore, je ne sais plus, il avait des ateliers, je crois, mais en fait non, il ne faut pas forcément en parler. Ou c'est,
qui ça
des ateliers de la musique ancienne. Ou
des rendez-vous de musique ancienne. Oui. Bon, on en parlera une prochaine fois.
Eh bien, voilà.
Mais voilà.
Si on souhaite vous retrouver, on ne peut pas aller vous déranger sur Saint-Louis-Saint-Bruno. Ce sont vos bureaux.
Si, on peut. Bah si on nous amène des chocolats ou des fleurs ou des viennoiseries, il n'y a pas de problème. La porte est ouverte, il faut juste monter les 5 étages pour monter dans la tour dans laquelle nous sommes en résidence.
Vous n'enregistrez pas là-bas.
On enregistre dans la chapelle, effectivement, qui est de l'autre côté de la rue, en fait, côté lycée général. Nous, on est côté lycée professionnel et lycée technique. Et on enregistrera l'oratorio de Scarlatti, d'ailleurs, en 2026, là-bas.
26
Le rendez-vous est déjà pris, oui. Oui.
L'oratorio que vous donniez...
Qu'on donnait à la chapelle de la Trinité.
Le 11 février.
Voilà, exactement.
Il trionfo de la grazia.
Voilà, le triomphe de la grâce.
Grazie mille. Merci beaucoup, Paulin Bungen, de nous avoir parlé de vous-même, de l'ensemble de Céladon aussi. Si on souhaite vous retrouver, il y a des
sur le site réseaux. Internet, des réseaux, bien sûr. Instagram, Facebook, il suffit de taper Ensemble Céladon. Et puis notre site internet, ensemble-céladon.com, tout simplement, avec toutes les actualités, voilà, et puis plein d'articles super intéressants. Je vous conseille d'y aller. Vous pouvez même acheter nos disques en ligne sur notre site.
Entendons-nous bien. Si vous vous attendez à entendre un de ces contre-ténors aux cabrioles superficielles encensées par certains médias, vous risquez d'être déçu. Ici, le chanteur ne cherche jamais à impressionner et il n'en est que plus saisissant. Ce qui l'intéresse est l'expression et non les faits. Son approche humble et fervente, dégageant une douce et chaleureuse et finalement aussi très spirituelle luminosité, est convaincante de bout en bout. J'avoue avoir été, c'est ce qu'écrit, il n'a pas mis son nom. Hein,
c'est Jean-Christophe Pucek, qui travaille pour Diapason.
Avoir été plus que touché à de nombreux moments de cette anthologie lorsqu'il a eu le sentiment que le chanteur, sans aucun geste démonstratif, se mettait à nu. Les émotions du texte et les siennes ne faisant qu'une, avec une simplicité absolument désarmante. Vous êtes effectivement d'une belle simplicité, Paul.
Oh, ben merci.
J'invite les auditeurs et les auditrices à aller donc vous retrouver sur les réseaux et également vous retrouver le 25 septembre, un jour de semaine ou c'est une fin de semaine?
Mercredi.
Ouais. Allez vous retrouver au musée Gadin. Enfin voilà, je tenterai de mettre tous les éléments en lien sur le blog. Nous, on se dit qu'on se reverra. Peut-être avant 2026, hein, parce que ça fait
peut-être, oui, ça va. L'année vient juste de commencer, 2026. 2024, donc 2025, c'est bien.
Si on souhaite vous écouter, l'album sort le 5 juillet.
Le 5 juillet, au Doute en Nouvelle.
Un vendredi.
Richard Carr, un vendredi. Pourquoi pas. Et je vous crois. Et voilà, pour danser un petit peu sur les reverdis et les chansons à refrain des troubadours, des trous verts. À chaque fois, je me trompe, des trous verts en l'occurrence.
Pour nous quitter, nous allons entendre le Demonte Lapis Shinditur, un texte anonyme. Vous l'avez un peu présenté tout à l'heure, c'est Hieros, l'album.
Voilà, c'est dans l'album Hieros, et donc c'est un conduit à trois voix de l'école de Notre-Dame. École de Notre-Dame parce que la musique correspond à la période de construction de Notre-Dame, et c'est une période où la musique, comme l'architecture, va s'envoler vers les hauteurs.
Notre-Dame,
celle qui a brûlé.
Et celle-là. L'anniversaire, je crois que c'était il y a 5 ans,
oui,
me semble-t-il.
Il avait promis que c'est... Il n'en est pas loin, hein, parce qu'elle est bientôt terminée. Hein, donc, ils sont allés très vite, quand même.
Il y a encore
plus qu'au Moyen-Âge.
J'étais en mars dernier, il y a encore quelques échafaudages. Mais c'est vrai que c'est en
mars. En mars, c'était il y a un mois. Ils ont certainement beaucoup travaillé depuis.
Auditeurs, auditrices, si vous souhaitez encore écouter les émissions à venir de Radio Canut, j'ai tout à fait raison. Les bandes continues vont arriver dans quelques instants. Tout à l'heure, à 16h, je crois que le blues des Canuts fait relâche. À 18h, il y aura bien Mayday. À 19h, le Canut Info. 20h, Idées Noires, émission de l'Union communautaire locale, lyonnaise, je ne sais plus quel est le terme exactement. À 22h, Boulimix, émission Funkystery, ça vous ressemble ça, non? Funkystery, Paul Amiguet.
Et pourquoi pas?
Ah, oui. Et vous disiez que l'ensemble... Oh, c'est la don, il faudra que vous reveniez pour indiquer mais quel est ce personnage d'Honoré Durfé. Est-il natif de Montbrison, lui aussi? Il est forésien, non?
Oui, il est forésien. La bâtie Durfé, effectivement, c'est j'ai grandi à côté, donc c'était tout indiqué.
L'œuvre, on ne l'a pas nommée, c'est cette œuvre.
L'Astré.
Bien évidemment. Vous nous direz donc tout de ce personnage.
Je reviens demain.
Qui a une fin tragique, hein, je crois.
C'est un happy end, mais par contre, il se noie avant. Enfin voilà, ce pauvre Céladon passe par tous les états.
Paulin, vous reviendrez pour nous en parler. Marie aussi reviendra avec plaisir pour nous en parler. Nous écoutons le Demonte Lapis. Auditeurs, auditrices, portez-vous bien, couvrez-vous un peu. Il fait frais, même si le en mai pour ouvrir l'émission était très bien, mais on n'est pas encore en mai là.
On ne se découvre pas d'un fil.
Relâche pour les émissions à venir. Point d'émission les 24 avril, 1er mai. 8 mai, vous faites relâche, vous aussi, pour le jour férié, peut-être?
Oui, en général, oui. Personne ne vient au concert ces jours-là.
On se retrouve le 15 mai avec Thiago Guedes pour parler de la Maison de la Danse. Il y a une belle programmation qui viendra la semaine suivante, le 8e festival. Ce n'est pas sa 8e édition, c'est le festival du 8e arrondissement. C'est sa première édition. Il y a beaucoup de danse qui se fera un peu partout, dans la Maison de la Danse, certes, mais dans divers endroits. Vous trouverez des renseignements sur le blog. Merci Paulin, merci Marie.
Merci.
Auditrice, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.